Les pieds sur terre, Sonia Kronlund
et Delphine Seltel.
Des histoires, des enquêtes, des reportages.
Parce que c'est comme ça que les choses arrivent.
L'histoire est parue dans le Nouvel Observateur sous la plume de Doan Bui. Elle se passe il y a 10 ans. Damien a 20 ans à l'époque, il est au chômage. Par une connaissance, il entend parler d'une dame fort riche qui recherche une employée de maison. Comme dans le film de Billy Wilder, Damien tente sa chance. Même si la dame recherche une jeune femme, qu'à cela ne tienne, il y va. Et contre toute attente, Damien est embauché par cette dame excentrique qui le renomme Rosa et l'habille avec un uniforme de bonne. Petit col, coiffe et tablier. Le job s'avère une aubaine. À la base, les autres bonnes de la maison, qui en comptent de nombreuses, sont payées 1100 euros net par mois. Mais comme Rosa est un garçon, il touche double salaire, 2200 net par mois. Logé, nourri, blanchi. Mais la discipline est de fer. Les règles oscillent entre le ridicule et la tyrannie. Chez cette dame, par exemple, on mesure au mètre de couturière l'espacement entre les assiettes quand on met le couvert. On parle au patron à la troisième personne et on frotte les sols à quatre pattes. Mais ce qui choque le plus Damien, ce qui le laisse sans voix, c'est qu'il est obligé, comme les autres domestiques de la maison, de porter des couches. Au début, il pense que c'est une blague, lorsque la gouvernante lui tend l'objet pour la première fois. Mais l'usage n'a rien d'une plaisanterie. Il permet, selon l'employeuse, de faire gagner du temps aux domestiques qui, autrement, devraient traverser tout le manoir pour se rendre dans les sanitaires qui leur sont réservés. Damien se fait à cette règle incroyable. Il passera 3 ans en uniforme de soubrette, à s'appeler Rosa, à répondre aux coups de sonnette et à porter des couches, donc. On y croit à peine. C'est une de ces histoires dont on se dit, comme souvent dans Les Pieds sur Terre, la réalité dépasse la fiction. D'ailleurs, même si Damien en avait un peu rajouté, s'il avait inventé quelques détails ou qu'il s'était légèrement embrouillé dans sa mémoire, cela n'aurait d'après nous pas tellement d'importance. Ce serait même presque plus intéressant encore, qu'il ait pu y penser, penser qu'on y croirait, qu'il y ait des gens pour l'écouter, croire à son histoire et l'aimer. Cela nous suffirait, tant que bien sûr Damien ne porte préjudice à personne. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, ce sont des histoires d'un quotidien plus banal, des histoires de ménage, hommes et femmes, qui nettoient sans tablier ni couche, vrai de vrai, celle-là c'est juré, jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre, sur France Culture, par Delphine Dilly.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Je m'appelle Soumarou Souleymane. Je suis de nationalité béninoise. Je travaille dans une entreprise de nettoyage. Et pour le moment, je suis machiniste. Mon rôle, c'est de passer la machine sur des surfaces soit carrelées, soit des surfaces où on nécessite d'être brillant. Au Bénin, de métier, j'étais bijoutier. Je faisais de la bijouterie. Un jour, j'ai rencontré un ami qui m'a dit, en France, vous pouvez faire la formation pour devenir plus qualifié que ce que vous êtes. Ça m'a plu, mais arrivé ici, on m'a dit, il fallait avoir moins de 18 ans, il fallait avoir une carte séjour. Donc, il fallait chercher la carte séjour. Je suis resté pendant plusieurs années en train de bricoler de gosse avec des copains, travailler au noir, ceci, par là, pour pouvoir survivre. Je suis passé à chercher du travail. Là, je rencontre une maison d'association qui était dans le 12e. C'est un copain qui m'a amené là-bas et qui m'a orienté à faire la formation de nettoyage. Allez hop, voilà, je me suis retrouvé dans l'entreprise Entretien Moderne. Donc c'est grâce à ce travail-là que j'ai eu mes papiers. J'étais déjà content d'avoir un travail. Au moins, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi m'occuper un peu de la famille au pays. Mais au fur et à mesure que les années passent, je suis coincé dans ce système-là. Voilà. Je me suis syndiqué tout de suite. Hein, à 6 mois après, j'ai pris la carte syndicale. Aussitôt, j'ai été élu. Donc, j'ai décrété 2 jours de permanence pour que je puisse recevoir les salariés qui ont des problèmes. Donc, pour ceux qui ont des problèmes, le non-paiement des heures, le non-paiement des cartes oranges, ou la demande du congé payé, ou d'autres problèmes. Et quand je venais, j'étais tout seul. Et à cette époque, quand le patron vient, il me voit, il rigole. Mais au fur et à mesure, j'étais là, au fur et à mesure, les gens y passaient. Et j'avais des papiers, j'avais fait des petits tracts où à chaque fois, je voyais un salarié, je lui donnais. Et à un moment donné, ça a plu à des gens. Il y avait tellement maintenant du monde qu'il était maintenant devenu plus gêné. Il s'est dit, mais putain, ce truc qu'on avait dit, ça ne fonctionne pas. Et ça fonctionne. D'abord, je prends ma machine. La priorité des priorités, d'abord, c'est de faire les bureaux. Une fois que vous finissez les bureaux, vous allez faire les allées. Mais comme c'est le matin, il n'y a pas beaucoup de monde pour le moment encore. Une fois que vous avez fini, vous descendez vos matériels, vous restez en bas, vous vous changez et puis vous sortez par le parking et puis vous partez. Ceux qui sont là veulent bien voir leur bureau propre, mais ils ne veulent pas voir les gens qui travaillent. C'est ce qu'on appelle les travailleurs invisibles. Mais c'est comme ça, nous on s'appelle tous comme ça. Nous, on est invisibles. Des gens, même si vous faites de leur boulot, si pour des raisons X, ils peuvent dire, moi, mon bureau n'est pas fait. Et ils peuvent faire des notes à la direction et vous êtes sanctionné pour ça. Et ça, ce n'est pas aujourd'hui, ça arrive très souvent. Ils envoient la note à la direction vous met une lettre recommandée en disant, votre client dit que votre travail n'est pas bien fait. Ça m'est arrivé. Le plus drôle, ça a été, c'était quand même un peu malin, je travaillais à la Défense. Un jour, la dame nous a accusé d'avoir mangé une pomme. Une pomme. Le PDG est venu, il lui a dit, pour une pomme, vous déposez plainte. La dame lui a dit, oui, moi j'avais laissé une pomme là, j'avais posé sur la poubelle. Alors que nous, comme il était posé sur la poubelle, même si la poubelle, elle est fermée, pour nous, c'est acheté. Mais pour elle, non. Mais on nous a fait payer. Payer. Une pomme. On apprend un matin, le directeur vient, il nous dit, bon, écoute, tout le monde, personne ne sort d'aujourd'hui. On a volé des pièces à l'intérieur de l'ordinateur. À l'époque, j'étais délégué du personnel. Le PDG pose la question. Je lui ai dit, franchement, est-ce que vous pensez que les gens qui sont là, qui ne savent pas lire ni écrire, qui ne savent même pas écrire leur nom, peuvent démonter un ordinateur et puis voler des matériels à l'intérieur? Franchement, vous pensez à ça? Il me dit, moi, je ne fais que faire mon travail. Je lui ai dit, d'accord. On était 12 salariés. Tous les 12 salariés sont passés à l'interrogatoire. Moi, j'étais là pour assister les salariés. La première dame arrive, on lui dit, où il est l'écran d'un ordinateur? La dame lui dit, je ne connais pas l'écran. On lui montre, on lui dit c'est quoi? Il dit ça c'est la télévision. La deuxième personne arrive, on lui dit où il est la souris. Il a dit, monsieur, moi si vous avez demandé de me donner les médicaments des souris, on ne m'a jamais donné. Donc, vous voyez, parce que j'ai dit au directeur, mais pour voler quelque chose, il faut le connaître. On ne peut pas voler quelque chose que on ne connaît pas la valeur. Et on ne sait même pas qu'est-ce que c'est. Donc, à un moment donné, le directeur était assis, il a dit non, c'est bon, allez, on ne va pas se perdre le temps. Ces gens-là ne peuvent pas se permettre de voler, d'ouvrir l'ordinateur et de voler des pièces à l'intérieur. Donc voilà des trucs comme ça. Dans les années 99, on m'invite à la réunion des patrons. À la fin de la réunion, il me dit, mais Monsieur Smaro, vous êtes très intelligent. Moi, je vous propose à être un inspecteur. Je lui dis, pourquoi pas? Voilà, c'est vraiment une responsabilité. C'est voir comment livrer les produits, faire surveiller si le travail est bien fait, discuter avec les donneurs d'ordre, et ainsi de suite. C'était une grande différence au niveau des salaires. J'ai dit, quelles sont les conditions? Il me dit, il faut démissionner de tout vos mandats de la CGT. Ah, j'ai dit donc. J'ai dit, il y a un proverbe sur nous qui le dit, on ne laisse pas tomber le poisson dans la main pour attraper le poisson dans le pied. Parce que celui qui est dans mon pied, je ne suis pas sûr de l'avoir. Celui qui est dans la main, je suis sûr, je l'ai dans la main. Même si c'est petit, je préfère le garder. Au moins, j'ai un poisson. En 2008, on s'est dit, il est possible de mettre la pression sur les patrons, que les patrons puissent régulariser leurs salariés, des sans-papiers, qui travaillent là-dedans. Soit ils travaillent avec le papier de leur cousin, soit ils ont des faux papiers, soit ils ont pas du tout de papier. Mais ils travaillent. Donc, on s'est mis à organiser. Moi, j'avais la responsabilité du nettoyage. Je les aidais à les organiser, à les mobiliser, à monter le dossier, et ainsi de suite. Ça s'est très bien passé. En tout, à la fin en 2010, tout, il y avait eu presque plus de 3000 et quelques salariés qui ont été régularisés quand même. Plus de 3000 dans le nettoyage. Et ça, ce mouvement a permis à ces gens-là de retourner, d'aller voir leur famille. C'était quand même formidable. C'était une énorme victoire, oui. Mais ça n'a pas plu à la direction. J'ai été licencié. J'ai été encore de nouveau réintégré en 2012. Pour me sanctionner, il m'envoie à Ivry. Vu mon âge maintenant, je ne suis plus le genou qui pouvait courir derrière le métro comme avant. Donc c'était pour me pousser à démissionner. J'ai dit non, ça vous êtes en train encore de vous rêver. Et je suis allé. Après la fin du conflit, il m'avait mis au parking où on avait occupé, pour me dire que vous allez passer la machine là-bas. Pour me humilier auprès des salariés qui venaient me voir, vous voyez le leader, celui qui passe la machine dans le parking. Ils m'ont tellement fait des misères que ça me fait, des fois ça me fait rire, des fois. Mais on est toujours quand même ensemble, on y va. Et sans rancune, même si je les vois aujourd'hui, je les salue, on rigole et on part, et on continue. Mais moi je ne regrette pas parce que je lui ai dit quand je suis venu passer la visite médicale pour la reprise, je l'ai vu, le directeur. J'ai dit, vous voyez, monsieur, je suis toujours là. Et je serai toujours là, à côté de vous.
Là, ici, c'est le troisième endroit où vous travaillez aujourd'hui.
Oui, c'est le troisième endroit.
Et il est midi.
Il est midi, oui. Je commençais déjà à 6 heures du matin. Oui. Voilà, c'est l'alarme. J'ai beaucoup de codes. Parfois, c'est compliqué, mais après, bon, j'arrive toujours à me débrouiller, quoi. Voilà. Je m'appelle Maria, j'ai 39 ans. Je viens de Portugal, et je suis d'origine capverdienne. Ça fait 8 ans que je suis en France. En fait, quand j'arrivais ici, je me suis séparée déjà, j'étais mariée. Quand j'arrivais ici, je posais la question en fait, qu'est-ce que je vais faire comme métier? Ma sœur m'a dit, Maria, tu vas faire les ménages comme tout le monde. J'ai dit, mais ménage, je ne peux pas faire les ménages, moi. Pour moi, c'était un choc. J'avais un autre boulot, en fait, au Portugal, donc ce n'était pas forcément qu'est-ce que je voulais faire. Elle m'a dit, oui, c'est le ménage, sinon il faut que tu fasses une formation. Mais moi, j'avais deux enfants. Ils étaient petits. Donc, j'ai bien réfléchi. Je me suis dit, bon, voilà. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Comme j'arrivais, je ne savais pas parler français. Je ne savais pas écrire français. Donc, ma voisine, quand j'ai appris qu'elle était capverdienne, je lui ai demandé en fait que j'ai besoin de travail. Donc, elle m'a dit qu'elle travaille dans une société qui était portugaise. La patronne m'a trouvé une heure de boulot. Quand j'ai trouvé une heure de travail, moi, j'étais heureuse. J'étais contente parce que je me suis dit, Maria, tu as trouvé un boulot. Donc, je faisais les chemins pour faire une heure pour arriver à mon boulot, une heure de travail et une heure pour rentrer chez moi. Les ménages, c'était dans un café à Pigalle. Et je me souviens très bien parce que quand j'ai regardé les cafés, je me suis dit, mon Dieu, comment je peux nettoyer ça parce que c'était tellement sale. Bon, et la fille m'a regardé, elle m'a montré les travaux, ma patronne m'a présenté comme c'est moi qui vais les remplacer. Je me souviens très bien, elle m'a dit, Maria, bon courage, mais je sais que tu ne vas pas rester ici longtemps. J'ai vu la fille avec deux seaux de l'eau. L'eau, il était noir. Donc, le lendemain, j'ai arrivé 6 heures du matin pour faire le boulot. Je me suis dit, Maria, tu ne vas pas arriver. Donc, j'ai arrêté 2 minutes. Je me suis dit, tu es obligée d'arriver parce que j'ai pensé à mes enfants qui étaient à la maison. J'ai pensé à mon petit qui avait 12 ans, qui était chez ma sœur. Mais après, bon, j'ai commencé à nettoyer. Je n'ai pas fait une heure les premiers jours. J'ai fait 3 heures. Parce que je voulais nettoyer, qu'il soit propre quand ma patronne elle arrive pour regarder, pour dire... Bravo, je vais te trouver encore 2 heures. Parce qu'une heure, ce n'était pas suffisant. Elle m'a dit, je suis contente de ton travail, donc je vais te trouver 2 heures. Et après, j'ai rencontré une autre société, donc il m'a donné 6 heures de travail. Après, j'ai rencontré les gens dans les bureaux qui voulaient chercher une femme de ménage pour travailler chez eux. Et voilà, ça a commencé comme ça. J'ai fait la course le matin. Et les métros, on prend les premiers métros 5h30. Donc, si vous voyez, c'est presque tous les gens des nettoyages. Donc, on a toujours les mêmes façons de faire les choses. On a un rythme. Donc, je sors 5h20, je travaille à l'épilitier, de 6h à 8h30 dans un bureau. Je sors de l'épilitier, je vais aller à Saint-Augustin, je fais 1h30, je cours à Gare de Lyon, je fais 2h à Gare de Lyon. Je vais aller à Montrouge, je travaille chez quelqu'un, je fais 3h chez eux. Et de Montrouge, je viens à Stalingrad. Je fais 2 heures à Stalingrad. De Stalingrad, je retourne à mon boulot qui commence à 17 heures le soir. Et j'ai fini 21 heures. Je n'ai pas de pause, en fait. De pause, c'est dans les transports. Donc là, je m'assois au soir. Parfois, je ferme les yeux 10 minutes. Donc ça me fait du bien. J'ai toujours des madeleines dans mon sac. J'arrive les matins, je prends mon cappuccino avec 3 petites madeleines, je mange. Donc là, jusqu'à 13h, 13h30, ça va. Après, bien sûr, j'ai faim. J'ai faim, mais parfois je me suis dit, si j'arrête 2 minutes, donc je perds 2 minutes, c'est beaucoup pour moi. Et parfois, je ramène un petit sandwich, je mets dans mon sac. Et ça arrive à la fin de journée, les sandwichs sont dans les sacs. Si je dépasse 5 minutes, pour moi, 5 minutes, c'est trop, c'est beaucoup. Donc, 5 minutes, il faut que je regarde. Bon, si j'attends les métros 5 minutes et là en retard, Donc après, j'arrive à quelle heure l'autre boulot? Et je le branche ici. Et c'est parti. Au début, je travaillais lundi à lundi parce que les jours fériés aussi, dimanche. Ma sœur, elle a dit, Marie, arrête, je vais t'abîmer. Donc voilà, c'est bon là. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour le dimanche? Normalement, mon contrat, c'est lundi, lundi, donc je ne peux pas. Et donc, j'ai parlé avec ma patronne et elle m'a dit, bon, Maria, tu as droit. Donc, c'était fait. Mon Yannick m'a demandé, maman, qu'est-ce qui se passe? Tu es malade? J'ai dit, non, Yannick, je ne suis pas malade, mais à partir de maintenant, tu vas me voir très souvent les dimanches. Je ne travaille pas les dimanches. Donc, deux, trois dimanches ensuite, il me demandait toujours, maman, ça va, t'es malade? J'ai dit, non, Yannick, juste qu'elle a oublié parce que les gamins, ils étaient tellement habitués.
Je vais chercher ma fille.
Mais dimanche, je me lève tôt parce que j'arrive pas à dormir. Parce que le corps s'est habitué, je me lève à 5 heures du matin. Donc, voilà, je fais les machines, au soir, j'ai les toilettes à laver, je fais un peu de repassage. Et l'après-midi, je dors. Et mes enfants, ils me laissent dormir. Voilà, mon aspirateur, il est fait. Une fois, j'ai nettoyé les sols. C'était un matin, j'arrivais, j'ai mis mon panneau qui dit « sol glissant ». Donc, le patron, il est passé, les sols, il était mouillé. Je l'avais dit, monsieur, vous ne pouvez pas passer parce qu'il s'est mouillé. Il ne m'a pas dit bonjour. Ça, en fait, ça m'a choqué. Je crois que c'est la politesse, quand même. Donc, j'étais fâchée. Je lui ai dit, gros, il m'a élevé. Monsieur lui a retourné le dos. Il a appelé ma chef. Donc, après, il m'a dit, Maria, c'est le patron. J'ai dit, moi, là, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je me suis dit, ah, en plus, il ne veut pas te voir. Il a dit qu'on lève cette dame de cet endroit parce qu'il ne veut pas te voir. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. J'ai dit, en plus, je lui ai dit qu'il est gros, il est mal élevé. Voilà, là, ma chef, elle m'a dit, Maria, bon, oh, qu'est-ce que je fais avec toi? Ma chef, j'ai dit, alors, je vais travailler. Elle m'a dit, tu vas aller au parking. J'ai dit, au parking? Ça me faisait quelque chose parce que les parkings, en fait, ce n'est pas un endroit pour une femme, c'est pour un homme. Moi, ça me fait triste parce que j'étais au parking, je ne voyais pas les gens. 2 mois après, ma chef, elle m'a enlevée. Je travaillais après dans l'étage, mais pas dans l'étage où j'étais. Non. Et j'ai descendu au 2e. J'étais à 4e, après j'ai descendu au 2e. Oui. J'étais malheureuse parce que je connaissais tout le monde à 4e étage.
Ici, c'est les bureaux du patron. Je prends les clés, je vais changer. Comme ici, c'est un endroit propre, quoi. Et parfois, c'est pas évident.
Ça m'est arrivé aussi dans les... J'ai trouvé un monsieur très, très gentil. Très, très gentil. Mon collègue, en fait, est passé l'aspirateur et moi, j'ai fait les nettoyages des tables libéraux. Il nous a proposé, moi et mon collègue, un café. Donc, moi, j'ai dit non, merci, monsieur. Et mon collègue aussi, non, merci, monsieur. Donc, on a retourné les dos. Sa collègue qui était avec elle, il dit maintenant, tu as baissé de niveau. Tu payes les cafés, les agents d'entretien. Donc, quand on a entendu ça, on était. Donc, c'était une jeune fille, en fait. Il a dit, ah non, mais ils sont gentils, tout ça. Mais ça nous a choqués. Hein. Et voilà, c'est propre. Nickel. Ça, je le mets là. Ça m'arrive aussi, casser un verre. Et après, je suis en retard, je me suis dit, mince, je vais retarder mon boulot, mais bon, c'est comme ça. Et c'est parfait, c'est nickel. C'est clair. J'avais des projets, j'avais les rêves de faire un test de caisse ou un autre truc qui ça me plaît, quoi. Mais bon, maintenant, je crois que je demande pas grand chose. Je demande juste que. Moi, je crois que dans les ménages, de toute façon, je vais continuer le reste de ma vie parce que là, je vois pas, en fait, je me vois pas arrêter pour aller faire une formation, pour faire une autre chose. C'est vrai que je voulais en fait un truc moins fatigant, que je pouvais rester un peu plus avec mes enfants. Et les gens, ils disent toujours quand on veut, on peut. Mais dans le genre d'aujourd'hui, c'est pas facile. Donc je demande juste que mes enfants travaillent bien à l'école. Et après, les restes, on verra à la suite. Il y a trois toilettes ici. Quand j'arrive, les dernières toilettes, je souffle. C'était si fini.
At your front door, how are you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun? When the law break in, how are you gonna go shot down on the pavement or waiting on death? Raw. You can crush us, you can bruise us, but you have to answer too. Oh.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, un reportage de Delphine Dilly, réalisé par Delphine Lemaire avec un coup de main de François Connac, diffusé pour la première fois en mars 2016. Merci à Souleyman, à Maria, à Rachel et à Sarah.
As in heaven, as in hell, you see, he feels like Ivan, born under the Brixton sun. His game is called surviving. At the end of the harder they come, you know, it means no mercy. They caught him with a gun. No need for the Black Maria. Goodbye to the Brixton sun. You can crush us, you can bruise us, yeah, even shoot us. But oh, the guns.